Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
Le Picard Jacques Ranson, le tueur de la gare de Perpignan, est mis en examen pour viol et assassinat d'Isabelle Ménage en 1986. Il reconnaît les faits. La jeune femme, alors âgée de 20 ans, avait été retrouvée morte près du bois de Cachy dans la Somme.
Bonjour. Depuis le 24 juin 2022, date de sa condamnation définitive à la perpétuité, Jacques Ranson est entré dans le cercle très fermé des tueurs en série français. À son actif, trois meurtres. Trois jeunes femmes violées, poignardées, puis mutilées selon un épouvantable rituel. Les enquêteurs, les psychiatres vont longuement se pencher sur le parcours de ce chariste magasinier qui, depuis sa jeunesse, n'a cessé de multiplier les agressions sexuelles comme s'il était habité par l'obsession de violer et de détruire ses victimes. Ranson n'en demeure pas moins un tueur pervers et prudent, un criminel qui s'entoure de précautions pour ne pas être identifié et qui, lors de ses auditions, esquive les questions et trouve des échappatoires. Il va falloir 31 ans pour qu'il soit identifié comme le meurtrier d'Isabelle Ménage, tué en 1986 dans la Somme. Et pas moins de 7 interrogatoires pour qu'il avoue auprès d'une profileuse de la gendarmerie, spécialiste du comportement criminel et des tueurs en série, Marie-Laure Brunel-Dupin. Comment a-t-elle procédé? Elle va nous le dire. Marie-Laure Brunel-Dupin est aujourd'hui notre invitée.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et l'heure du crime.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, un tueur en série nommé Jacques Ranson, un nom qui apparaît en pleine lumière à l'automne 2014. Il avoue un premier meurtre commis à la gare de Perpignan 16 ans plus tôt, affaire jusque-là non résolue. D'autres aveux vont suivre. Mardi 14 octobre 2014, Jacques Ranson, 54 ans, est en garde à vue au commissariat de Perpignan. Ce chariste, magasinier, désormais au chômage, vient de passer un an en prison pour harcèlement et menace de mort contre son ex-épouse. Mais c'est pour une toute autre histoire qu'on veut l'entendre. Le viol et le meurtre de Mokhtaria Shaib, 19 ans, abordé par un inconnu le 20 décembre 1997 dans le quartier de la gare de Perpignan. La jeune femme avait été retrouvée morte le lendemain en bordure d'un terrain vague, poignardée, sa poitrine et son appareil génital prélevés de façon quasi chirurgicale. La piste d'un chirurgien ou d'un boucher avait d'ailleurs été examinée. Ranson est en garde à vue car son ADN a été détecté 17 ans après sur une chaussure de Mokhtaria. Le suspect reconnaît un passé d'agression sexuelle et de violeur, déjà condamné, mais nie ce meurtre. On l'emmène sur la scène de crime, mais il ne bronche pas. Il décrit le genre de femme qui lui plaît, des jolies brunes à gros seins. 16 octobre, fin de la garde à vue, à la 7e audition, Jacques Ranson passe enfin aux aveux. 8 mois plus tard, 9 juin 2015, il avoue un autre meurtre et un viol non élucidé à Perpignan, celui de Marie-Hélène Gonzalez en juin 1998. Lundi 5 mars 2018, Jacques Ranson comparé devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales pour les deux meurtres de la gare de Perpignan. Il n'est pas très bavard. À propos de Mokhtaria Shaib et Marie-Hélène Gonzalez, il ne dit pas qu'il voulait les violer, il voulait simplement leur faire l'amour. Il les a tuées quand elles ont commencé à se défendre et à crier. Avec Ranson, si la victime résiste, il la tue, indique un psychiatre. Aucune réaction quand les femmes qu'il a attaquées témoignent. Sabrina, 19 ans, en 1998, une rescapée, a échappé à la mort 3 mois après le meurtre de Mokhtaria. Elle raconte comment Ranson l'a abordée un soir ivre au pied d'un immeuble de Perpignan. Il me fixait d'un regard sadique, c'est comme s'il me faisait l'amour sur place. Il me parlait en expirant, je me suis dit, Sabrina, dévisage-le. N'oublie pas ce visage, il est le mal incarné. La jeune femme reçoit plusieurs coups de couteau, laissée pour morte, miraculeusement sauvée par une passante. Ranson finit par sortir de sa torpeur, il présente des excuses aux familles. Mokhtaria et Marie-Hélène n'auraient pas dû mourir. Ce que j'ai fait est très grave, dit-il, condamné à la perpétuité avec 22 ans de sûreté. Jacques Ranson est en prison, mais tous les mystères sur le personnage sont loin d'être levés. Lors du procès, les psychiatres l'ont présenté comme un homme montrant des signes de déviance perverse et sadique, apte à récidiver. L'avocat général s'est interrogé sur d'autres victimes, peut-être oubliées, de Jacques Ranson. Autant de viols suivis de meurtres non élucidés. Le magistrat donne l'exemple d'une étudiante finlandaise qui faisait du stop, tuée de la même façon que Mokhtaria Shaib. Sur son passé criminel, Ranson se montre insondable. Non, il n'y a pas d'autres victimes, assure-t-il au président de la cour. Et Jacques Ranson, eh bien, il ment, évidemment. Il y a d'autres victimes, et au moins une, elle s'appelait Isabelle Ménage. Elle va être considérée comme la toute première femme tuée par Jacques Ranson. On va voir comment ce dossier va ressurgir et surtout savoir ce que va dire cet homme sur ce crime. On va suivre le dénouement de cette extraordinaire garde à vue dans le chapitre suivant de l'heure du crime. On revient pour l'instant à l'apparition de Jacques Ranson dans le paysage criminel, on l'a dit, trahi à cette époque par l'ADN. Bonjour Marie-Laure Brunel-Dupin.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes lieutenant-colonel de gendarmerie, chef de la division des affaires non élucidées de la gendarmerie. Ça s'appelle Diane, voilà, c'est l'acronyme, c'est Diane. Vous êtes criminologue, analyste comportemental, vous allez nous parler évidemment de cette science qui est très récente, là, qui commence à émerger. Et puis vous êtes l'auteur avec Valérie Perronnet, qui est journaliste, de Serrer les dents, publié aujourd'hui aux éditions Black Lab. Alors je précise tout de suite que c'est un roman, mais que ce roman, il est inspiré très directement de votre expérience professionnelle. Vous connaissez bien Jacques Ranson, vous allez nous parler de cet interrogatoire que vous avez mené lorsqu'il va être suspecté du crime d'une première femme. Là, on est dans le cas, par exemple, Mokhtaria Shaib. Il va mettre très longtemps à avouer, 7e audition. C'est curieux parce que c'est aussi à la 7e audition qu'il va vous avouer le crime d'Isabelle Ménage. On pense qu'il va tout de suite avouer parce que l'ADN est là, etc. Les preuves sont là, mais c'est tout le contraire avec Ranson.
Alors, on ne l'attend pas forcément, il n'est pas forcément là où on l'attend. Pour Mokhtaria Shaib, effectivement, il y a de l'ADN. Pour Isabelle Ménage, il n'y a pas ça. Donc, nous, on se dit pour Isabelle Ménage que ça va être compliqué. Parce que déjà, quand il y a des éléments matériels, il est compliqué à faire avouer. Alors même qu'on a des certitudes ou qu'il ait pris presque la main dans le sac grâce à ces éléments matériels. Donc c'est toute l'ambiguïté qu'il a, c'est que même confronté à l'évidence, il nie. D'ailleurs, il fait ça très bien pendant la garde à vue, où il trouve que la stratégie ou tous les éléments présentés sont très très justes. Et chaque fois qu'on lui présente des arguments, il dit c'est vrai que vous tombez bien, mais c'est pas moi.
Mais c'est pas moi. On a le sentiment que c'est un peu le fil rouge des tueurs en série, j'ai envie de dire. Cette espèce de jeu qui se met en place, où malgré les éléments, malgré les preuves, on retrouve souvent ça, non ?
Dans le comportement. Je ne sais pas si c'est lié au tueur en série. On a un certain nombre d'individus psychopathes qui répondent à ce schéma-là. Il y en a qui en jouent plus ou moins. Je ne pense pas que Jacques Ranson en joue spécialement. Je pense qu'il n'est pas à l'aise avec ça. Il n'a pas très envie qu'on en parle. Il n'a pas très envie qu'on lui parle. Et donc, il est très secret pour ça. Je ne sais pas s'il en tire une jubilation. Honnêtement, je ne pense même pas.
Il se protège ?
Oui, il se protège. Il voudrait qu'on le laisse tranquille, bien seul au fond de ses cavernes.
On remue pas ses souvenirs ?
Exactement. Il n'est pas à l'aise avec ça. Il est conscient que la société trouve que c'est pas très bien. Au moment où il le commet, il répond à son besoin et à sa pulsion. Et il n'est pas à l'aise. Alors, je dirais pas qu'il regrette, ou je n'irai pas dans... Il présente ses excuses quand même, ils le font pas tous. Alors, excuses apprises...
Un minima, attention.
C'est un minimum, mais il y en a qui le font pas du tout.
Vrai.
Et là, ça sent un peu le récit quand même, hein. Ça sent la phrase un peu apprise par cœur, mais il est surtout contrit vis-à-vis de lui-même, hein, et de ce qui lui arrive.
Mais il n'y a pas de honte.
Il n'y a pas de honte parce que c'est pas...
Ou alors elle est dissimulée, mais...
Non, je ne pense pas qu'il soit honteux non plus, il n'est pas à l'aise.
Bonjour Thibault Solano.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction à Marianne, c'est un magazine qu'il faut lire et en plus dont le prix est en baisse. En ce moment, il faut en profiter. Je cite votre dernier livre, Les Dévorés, que vous avez publié chez... Pocket. Alors vous connaissez bien ces histoires criminelles, vous connaissez bien ce dossier Ranson. Il y a toute cette enfance de Ranson là qui remonte à la surface lorsqu'on enquête sur le personnage, parce que cette enfance, et d'ailleurs Marie-Laure Brunel-Dupin le sait parfaitement, l'enfance est importante pour expliquer un parcours criminel. Hein. Et lui, c'est pas glorieux.
Non, c'est une enfance assez pauvre. Avec sa famille, ils habitaient dans une sorte de baraquement à Aille, c'est en Picardie, pas très très loin d'Amiens. Tous ses frères et sœurs avaient été placés, sauf lui. Donc il vivait avec ses parents. Il les a décrits comme un père absent, porté sur la boisson, une mère qui pouvait être violente, un peu handicapée mentale. Et puis c'est vrai que par ailleurs, il était sans doute victime à cette époque-là de ce qu'on n'appelait pas encore le harcèlement scolaire. Comme il était très pauvre, ça se voyait. Son père lui découpait des shorts dans des jeans. Ouais. Donc c'est une enfance pas heureuse et dans laquelle il a été livré à lui-même assez tôt puisqu'il allait même dans les jardins récupérer des légumes pour se nourrir.
Il y a quelque chose de très frappant, Marie-Laure Brunel-Dupin, c'est que tout de suite, à ces procès à Perpignan, on va dire, c'est pas les seules victimes, c'est pas possible. Les magistrats, comme ça, ont une intuition.
C'est vrai que quand on regarde le mode opératoire, on se demande comment on pourrait en être à ce si petit nombre.
C'est par ça. Rapport deux, à, donc deux femmes.
Hein. Deux, ça semble très douteux. Évidemment, c'est pas lui qui va dire le contraire à ce moment-là, mais entre son profil, sa personnalité et sa vie, on a de forts doutes.
Thibault Solano, je cite l'avocat général, pervers, sadique, apte à récidiver. C'est assez classique, c'est une description psychiatrique, j'ai envie de dire, qu'on retrouve dans beaucoup de dossiers criminels.
Surtout chez les tueurs en série, effectivement, puisque pour récidiver, effectivement, il ne faut pas ressentir de culpabilité. Et vous l'avez dit, c'est le cas chez Jacques Ranson. Chez lui, et c'était le cas au procès, on a l'impression que tout glisse. Au procès, j'étais présent à Perpignan, on aurait dit qu'il avait un masque de cire. Alors oui, c'est vrai, il a fait des excuses à minima, mais à part ça, c'est quelqu'un qui n'a l'air de rien ressentir et qui reste partiellement un mystère, je pense, pour tous ceux qui se sont penchés sur son cas.
Le tueur de la gare de Perpignan va être rapidement rattrapé par une autre affaire, la mort d'Isabelle Ménage. Samedi 21 avril 2018, un mois seulement après la condamnation de Jacques Ranson, les avocats Corinne Herman et Didier Seban demandent la réouverture d'un très vieux dossier, celui d'Isabelle Ménage, 20 ans, informaticienne, retrouvée morte le 3 juillet 86 à la lisière d'un bois à 20 km d'Amiens. Les avocats sont surpris par le mode opératoire de ce meurtre non résolu qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de Ranson. Comme Mokhtaria Chaïb à Perpignan, Isabelle Ménage a été attaqué par un maniaque sexuel qui lui a découpé ses organes génitaux et les a emportés avec lui. Les photos du corps témoignent de cette opération. À l'époque, les légistes avaient pensé que cette absence était due à la décomposition du corps, aux insectes, aux animaux. 5 novembre, la dépouille de la jeune femme est exhumée. Le cadavre porte bien des plaies profondes, sans doute causées par une arme blanche, couteau ou scalpel. Les gendarmes de la section de recherche d'Amiens établissent que Ranson, 26 ans à l'époque, vivait et travaillait à 17 km du domicile de la victime. 18 juin 2019, Jacques Ranson est extrait de la prison de Béziers et placé en garde à vue dans l'affaire Ménage. Il évoque volontiers son histoire personnelle, mais dément avoir croisé la route de la jeune femme. « Vous allez la voir, la vérité. Je n'ai pas tué en 1986. Vous êtes sûr que c'est moi, mais ce n'est pas moi », déclare-t-il. Les heures de garde à vue s'égrènent, sans que le suspect livre la moindre information sur Isabelle Ménage. Il enfonce le clou lors de sa deuxième audition. « Ce que je peux dire pour vous aider, c'est que je n'ai pas tué cette femme. Je vous le jure sur la tête de mes enfants. » Aux troisième et quatrième auditions, Ranson évoque les blessures sexuelles quasi identiques infligées à Mokhtaria et à Isabelle. Il y voit une coïncidence. Pour Mokhtaria Chaïb, il affirme que ce découpage était destiné à faire disparaître son ADN. Il finit par admettre que l'individu qui a découpé les parties du corps d'Isabelle était sûrement dans la même configuration que lui. Septième audition, après presque 48 heures de garde à vue, Jacques Ranson reste accroché à ses dénégations. Puis, par petites touches, il reconnaît avoir pris Isabelle Ménage en stop à la sortie de la commune de Fouillois. Il se rendait à un bal de village. « Je roule avec elle, puis je vais jusqu'au petit chemin. Je tourne à droite, je m'enfonce dans le petit bois. Là, je lui ai dit que je vais lui faire l'amour. Je commence à la déshabiller, elle se débat, je lui mets des coups, je lui fais l'amour. » Sur les mutilations, le meurtrier poursuit. Là, après, je l'ai découpé. Je lui ai coupé les seins et le sexe. Je suis reparti au bal et j'ai jeté les attributs que j'avais mis dans un sac. Jacques Ranson précise qu'il s'est servi de son opinel pour les découpes. Il explique qu'il avait auparavant étranglé la jeune femme à main nue dans sa voiture après l'avoir violée. Le suspect paraît soulagé par ses déclarations. « Je vous ai dit la vérité sans rien inventer », précise-t-il. Moins d'un mois plus tard, 10 juillet, il écrit au juge pour se rétracter. Il n'a pas tué Isabelle. Il dit avoir raconté n'importe quoi pour qu'on le laisse tranquille. Et malgré ses rétractations, cette marche arrière, Jacques Ranson va être jugé pour le meurtre d'Isabelle Ménage. Il sait que s'il est condamné, eh bien, il sera considéré avec le chiffre de 3 meurtres comme un tueur en série. On va aborder ce procès plein de tensions et de rebondissements dans la suite de l'heure du crime. On retourne à ce 17 juin 2019. Je dis 17 juin 2019 parce qu'on vous retrouve dans cette heure du crime, Marie-Laure Brunel-Dupin, lieutenant-colonel de gendarmerie, chef de la division des affaires non élucidées à la gendarmerie, la division Diane, criminologue, analyste comportemental, et vous y êtes évidemment lors de cette garde à vue. Et vous avez en face de vous Jacques Ranson. On vous a appelé parce que vous connaissez bien le mécanisme de ces tueurs en série, et là il faut que vous aidiez l'enquête, parce qu'il n'y a pas beaucoup de preuves matérielles, on n'a pas d'ADN sur cette affaire Isabelle Ménage, c'est un peu compliqué. Je dis 17 juin 2019 parce que c'est la veille de la garde à vue. J'ai entendu dire que vous n'aviez pas beaucoup dormi cette nuit-là et que vous avez peut-être lu et relu sans arrêt ce dossier.
Alors cette nuit-là, je ne le relis plus, mais effectivement, on a du mal à dormir. Je tiens à préciser que c'est vraiment une équipe qui se met en place
bien
pour
sûr.
Cette garde à vue, que je ne fais rien
vous n'êtes
seule
pas seul,
et que je ne fais avouer personne seul. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui reçois ces aveux. Donc on a vraiment beaucoup étudié, effectivement, parce qu'on n'a pas d'éléments matériels, donc on s'appuie sur toutes les interrogatoires qu'on a dans le dossier, toutes les fois où il a été interrogé, on s'appuie sur sa vie, on a beaucoup étudié cette scène de crime pour la comprendre, et on a préparé avec les enquêteurs qui vont mener la garde à vue, une stratégie pour le mettre dans les meilleures conditions possibles pour obtenir la vérité, et comme on le pense coupable, forcément des aveux. Et c'est d'ailleurs, je pense, une des gardes à vue qui m'aura le plus marquée, parce que les aveux de cette 47e heure sont complètement inattendus.
C'est vrai, ils arrivent comme ça. Alors, c'est intéressant, vous étiez persuadé qu'il n'allait pas avouer, c'est ça?
Ah si, alors moi j'y crois toujours.
Oui.
D'ailleurs, je pense que pour les enquêteurs et mes camarades qui m'écoutent, je suis même un peu énervante. je le reconnais, je m'en excuse publiquement, parce que j'y crois toujours. Jusqu'à la 48e heure 00, et qu'on soit obligé légalement de mettre fin à cette garde à vue, j'y crois. Pour moi, 47, c'est pas un chiffre, ça presse, hein. Au niveau du temps, mais j'y crois tout le temps. Sauf qu'au moment où ça arrive, il arrive en disant finalement, vous n'avez qu'à dire que c'est moi.
Et là, ça craque un peu.
Et là, c'est pire, c'est insultant en fait par rapport à notre travail de dire ça. On lui dit on n'a qu'à dire, c'est vous, puis vous allez nous expliquer comment. Mais il dit non, c'est pas moi, mais vous n'avez qu'à dire que c'est moi. Et ça arrive, c'est complètement inattendu comme façon d'amener les choses.
Il y a un transfert, finalement, il fait un transfert.
Oui, et puis, il aime bien cet enquêteur qui lui pose les questions. On a instauré un vrai climat de confiance, de respect, hein, quand on lui pose des questions. On n'est pas en train de lui hurler dessus. D'ailleurs, il déteste ça. Donc, on ne risque pas d'aller le braquer ou le bloquer à faire des choses comme ça. On est loin de l'interrogatoire avec la lampe. En parlant, comme on dit dans les films, très près de la bouche, on veut qu'il soit à l'aise pour parler. Donc, on met tout ce qu'il faut pour ça. Il aime bien cet enquêteur. Et on lui dit que c'est une dernière audition. Il sait que c'est la montre. Donc, en fait, quand il dit après que ce sont des pressions,
oui, mais
il suffit de regarder le film pour voir qu'on ne peut pas être moins sous pression.
C'est un classique. Juste un mot là-dessus, Marie-Laure Brunel-Dupin. Cet homme que vous avez en face... de vous, vous l'avez vu que sur dossier jusqu'à présent, vous le connaissez à travers ses déclarations, ses faits, quelques photos, etc. Il est conforme à ce que vous avez fait, de l'idée que vous faisiez de lui, ou vous aviez évité de vous faire une idée, justement?
Non, il est conforme à l'idée qu'on se faisait de lui. Il est extrêmement froid. Il n'y a vraiment aucune interaction. Quand on le voit ou quand on discute avec lui, il est de marbre. Mmh. Et il est pendant 48 heures.
C'est ça. Il reste égal à lui-même pendant 48 heures.
Il ne scie pas. C'est vraiment très impressionnant de voir ça. Parce que,
physiquement, en plus, il est assez impressionnant quand même.
Oui, il est costaud. Mais en fait, le fait d'être... Il est quasiment absent alors qu'il a cette carrure. Il a un regard perçant. Mais on a presque l'impression qu'il n'est pas là, qu'il n'est pas venu.
D'après vous, quel a été le déclic? Pourquoi est-ce qu'il craque? Vous dites, on l'a pas vu venir, il a déboulé comme ça, et puis d'un seul coup, il a lâché prise. Mais pourquoi? Est-ce qu'il y a un mot? Est-ce qu'il y a une image? Est-ce que vous avez une explication là-dessus?
Alors, j'aimerais avoir exactement la technique. Je pense que c'est 48 heures de travail avec lui et des mois avant qui ont donné des enquêteurs et une équipe au top, en fait. Il craque parce que les enquêteurs sont bons. Ouais. Et il craque pas, c'est pas une... On lui a rien arraché, on n'a rien fait de particulier. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que c'est assez surprenant. C'est pas sur une... On met pas en place des tactiques, on les piège pas.
Il faut s'adapter.
C'est ça, il faut être en réaction. Alors on a déjà anticipé énormément de chemins différents, de stratégies en place en fonction de comment il répond, de comment il se défend. Donc tout ça, c'est des plans qu'on a élaborés pour pouvoir ne pas être surpris. Mais donc là, il est sur l'accumulation de toutes nos stratégies.
Thibaut Solano-Rambaud, là-dessus, vous êtes directeur adjoint de la rédaction de Marianne. C'est étonnant, des années après, la résolution d'un crime, là, sur quelques paroles, sur une présence, sur un travail des gendarmes qui a été formidable, parce que petit à petit, ils sont venus sur lui.
C'est une affaire dont on parlait un petit peu au moment du procès de Jacques Ranson à Perpignan. C'est-à-dire que les avocats Corinne Herman et Didier Seban, qui connaissent bien les tueurs en série et les dossiers non élucidés, avaient cette affaire dans un coin de leur tête. Tout le monde l'avait oublié, effectivement, mais eux, ils pensaient encore. Et moi, je me souviens que, sachant qu'ils y pensaient, j'avais eu le papa au téléphone, le papa d'Isabelle Ménage, et effectivement, il y avait beaucoup de choses qui pointaient vers Jacques Ranson. Mais ce qu'il y a avec Jacques Ranson, c'est qu'effectivement, tant qu'il n'est pas acculé, il n'avoue pas.
C'est ça.
Et là, il n'y avait pas l'ADN. Donc, on pouvait être pessimiste. Mais finalement...
Il y a ce travail qui est très puissant, et c'est très impressionnant ce que raconte Marie-Laure Brunel-Dupin sur cette espèce d'encerclement du personnage qui a fini par payer. L'ancien magasinier va retrouver les assises, accusé d'avoir tué Isabelle Ménage. C'est son troisième meurtre.
Agression sexuelle, viol, il y a eu des vols aussi, qui ne m'avaient pas dit. Et ben là, c'est pire. C'est inimaginable. J'irais quand même pareil, c'est horrible. Il partait la nuit, on se demandait ce qu'il faisait.
Mardi 8 juin 2021, Jacques Ranson, 61 ans, chemise blanche, barbe rasée, cheveux coiffés en arrière et lunettes, est devant la cour d'assises de la Somme à Amiens. Il apparaît résigné à la lecture de son casier judiciaire. 6 condamnations pour viol et violence, une à perpétuité pour les meurtres de Mokhtaria Shaib et Marie-Hélène Gonzalez. Oui, j'ai fait tout ça, mais Isabelle Ménage, c'est pas moi, dit-il. Un de ses avocats, maître Xavier Caplet, affirme « Monsieur Ranson n'a jamais vu cette fille, on veut le faire rentrer au chausse-pied dans ce carcan. » Pour les avocats de la famille Ménage, pas de doute, Ranson est bel et bien le meurtrier d'Isabelle. Leurs avocats, maître Seban et Herman, font remarquer que Ranson ment sur un point capital. Pour les meurtres de Perpignan, 1997-1998, il a raconté qu'il avait mutilé les victimes pour qu'on ne retrouve pas son propre ADN. Et c'est pour la même raison qu'il aurait fait disparaître l'appareil génital d'Isabelle Ménage. Sauf qu'on était là en 1986 et qu'à l'époque, l'ADN était une donnée inconnue de la police dans les enquêtes. L'ADN n'apparaîtra que l'année suivante lors d'un double crime en Angleterre. Les experts psychiatres présentent Jacques Ranson comme un sexopathe. Les pratiques de mutilation, d'amputation semblent constituer la signature du tueur qui, elles, correspondent à un surmeurtre, écrivent les experts. Vous allez mourir en prison, monsieur Ranson, lui lance son avocat. Réponse. Oui, mais là, c'est pour mon honneur. C'est pas moi qui ai commis ce crime. Ranson est condamné à 30 ans de prison avec une peine de sûreté de 20 ans. Et il y aura d'ailleurs un procès en appel, ce sera à nouveau la perpétuité. Ça sera la perpétuité, pardon, pour le meurtrier. Marie-Laure Brunel-Dupin, on vous retrouve dans cette heure du crime et vous nous faites l'honneur d'être avec nous dans le studio RTL de l'heure du crime. Vous êtes lieutenant-colonel de gendarmerie, chef de la division Diane, c'est les affaires non élucidées à la gendarmerie, criminologue et analyste comportemental. Ça, c'est les nouvelles sciences qui permettent de mieux saigner, de mieux visualiser, j'ai envie de dire, le comportement de certains tueurs. Est-ce que vous êtes à ce procès? C'est le même homme qui est là, dans cette salle d'assises, et le même homme que vous avez vu lors de l'interrogatoire, ou bien il a évolué, il est différent?
Non, c'est exactement le même. Après, moi, je suis citée aux assises, donc...
Pour venir témoigner,
pour venir témoigner sur cette garde à vue et sur, justement, ces aveux soi-disant estorqués. Donc, je ne l'ai pas dans mon champ visuel, mais quand je l'ai, non, c'est le même, en fait.
C'est la même voix,
rien ne change,
le même comportement.
Et puis, cette absence.
Ouais, ouais.
Il est là, il est pas vraiment là.
Petite question, pourquoi il continue à nier ? Il a tout avoué, c'était très précis, vous y étiez lorsque il y a ses aveux devant vos collègues, etc. Vous, les gendarmes, vous l'avez vu, avoué, il n'y a pas l'ombre d'un doute, tout est précis, détaillé, etc. Pourquoi il continue à dire « c'est pas moi » ?
Et il revient dessus, en fait, pendant longtemps il nie, ensuite il finit par lâcher. Alors la question, on ne sait toujours pas pourquoi, mais peut-être parce que finalement tout lui est présenté pour que ce soit dans les meilleures conditions possibles. Et ce qui est particulier, c'est que derrière, il se rétracte toujours, il a toujours fait ça. Une fois qu'il a pris du recul par rapport à ses aveux, il les regrette.
Il parle d'honneur, lui, hein. Il dit « c'est mon honneur ».
Oui, alors enfin... son honneur, non, c'est genre de situation.
On est d'accord.
Pourquoi pas, hein, mais je ne suis pas vraiment convaincue. C'est simplement qu'il regrette d'avoir lâché. Et donc, il préfère dire que tout est faux et qu'il a tout inventé. Et pourtant, quand on a les aveux, ils sont circonstanciés, ils sont réitérés devant le juge, avec des éléments que lui seul peut connaître. Donc, en fait, au moment où il avoue, on sait déjà qu'il va se rétracter. On a l'habitude, il a toujours fait comme ça, c'est sa façon de prendre du recul par rapport à la situation. Comme on le disait, il est pas à l'aise avec ses crimes, alors c'est pas qu'il a honte, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas ce genre de choses. Mais finalement, toutes ces affaires-là, ça le met, lui, dans une... situation inconfortable et c'est il y a que lui qui compte.
C'est ça, il exprime effectivement ce malaise. Thibault Solano, vous êtes directeur adjoint à la rédaction de ce magazine. Marianne, qu'on connaît bien et vous êtes souvent avec nous dans l'heure du crime. Vous connaissez très bien ce dossier Jacques Ranson. Alors, il se prend un peu les pieds dans le tapis Jacques Ranson dans ses explications parce qu'il dit moi j'ai fait ça pour l'ADN, enlever mes marques ADN lorsque j'ai mutilé ces victimes. Ça vaut pour les victimes de Perpignan, là l'ADN effectivement à cette époque on le connaît mais ça vaut pas pour la première. Isabelle Ménage, on est en 86, il n'y a pas d'ADN dans les enquêtes à l'époque.
Et même sur Mokhtaria, il dit qu'il a fait ça pour faire disparaître son ADN. Et en même temps, les chaussures de Mokhtaria sur lesquelles on retrouvera son ADN, il s'en débarrasse à la va-vite en passant devant un jardin qui est dans le quartier où il a commis le crime. Donc, dès Perpignan, avant même de connaître le cas Isabelle Ménage, on peut se dire, mais il ment, c'est pas la vraie explication. Parce que pourquoi être négligent sur certains aspects, alors? Et en fait, effectivement, une des hypothèses, c'est que ça fait partie d'une sorte, alors je vais être prudent, je suis journaliste, je suis pas criminologue, mais d'une sorte de fétichisme.
Rituel.
Rituel
macabre.
De trophée. On a parlé, le mot a été employé au premier procès d'un trophée. Il repart avec une partie du corps de la victime comme un trophée pour asseoir sa domination sur elle. Parce qu'il est aussi animé par une haine des femmes, Jacques Ranson. Peut-être lié à sa relation avec sa mère. Mais c'est quelqu'un qui a, je crois, la haine des femmes. Et effectivement, qui n'a même pas conscience, semble-t-il, de commettre un viol. Puisqu'il n'emploie pas le mot viol, il emploie le mot faire l'amour à chaque fois.
Oui, tout à fait. Le meurtrier reprend le chemin d'une prison dont il ne sortira sans doute jamais. Vendredi 24 juin 2022, Jacques Ranson, jugé en appel pour le meurtre d'Isabelle Ménage, est condamné à la perpétuité et 18 ans de sûreté. Malgré ce verdict définitif, les avocats de la famille de la victime insistent sur la nécessité de poursuivre les investigations. Décembre 2023, le pôle des cold cases de Nanterre hérite du dossier Ranson. Il s'agit de reconstituer le plus fidèlement possible le parcours criminel de l'individu, les lieux qu'il a pu fréquenter, savoir où il se trouvait telle ou telle année, recenser ses amis, les femmes avec qui il a vécu, connaître ses habitudes et ses modes opératoires. Le but est de comparer cette arborescence avec des affaires non résolues dans lesquelles il pourrait être impliqué. Deux cold cases avaient été cités lors de l'affaire Ranson, le meurtre d'une autostoppeuse finlandaise en avril 1982 en Suisse. Le tueur, âgé à l'époque de 22 ans, aurait aurait pu se trouver dans ce pays lors de vacances. Le cas de Sophie Borka, disparue en mai 1985 à la sortie de son lycée à Saint-Quentin, est également évoqué. Son corps avait été retrouvé à moitié dénudé. Un bâton ensanglanté avait été également retrouvé sur la scène de crime, comme pour Isabelle Ménage. L'un des avocats du suspect, maître Gérald Brivet-Gallo, dénonce un acharnement. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle Jacques Ranson que l'on est forcément coupable, indique-t-il au Midi Libre. Et dans cette heure du crime, je reçois Marie-Laure Brunel-Dupin, lieutenant-colonel de gendarmerie, criminologue, analyste comportemental, et vous sortez, Marie-Laure Brunel-Dupin, aujourd'hui, ce roman « Serrer les dents » qui est publié aux éditions Black Lab, roman qui est directement inspiré de votre expérience. Vous nous parlez aujourd'hui de Jacques Ranson, et avec passion, vous nous avez dit comment cet homme est arrivé à prononcer ses aveux. Il a été condamné définitivement, alors pendant des années, voire des centaines d'années en France et dans le monde, une fois que la personne était condamnée, elle allait en prison, on n'en entendait plus parler, c'était fini. Aujourd'hui, on dit qu'il faut réexaminer le parcours criminel de certaines personnes. Pourquoi ? À quoi ça sert, finalement ?
Alors, en fait, pendant longtemps, et jusqu'à la loi confiance en la justice, à l'institution judiciaire, on n'avait pas la possibilité de travailler une fois que la personne était jugée, tant qu'il n'y avait plus d'autres infractions contre lui. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle le parcours criminel, c'est-à-dire de fouiller dans la vie d'un sériel, parce qu'il est sériel, alors même que, quand on enquête sur lui, on n'a pas de fait à lui reprocher. Mmh. Simplement d'être un sériel et de chercher, d'essayer de savoir s'il n'y a pas d'autres faits. C'est à cause des fameuses périodes blanches dont on entend parler.
Fourniret, notamment.
Voilà, on a des tueurs en série dont on sait aujourd'hui que la fameuse période blanche n'a pas existé, et on cherche ce qu'ils ont pu commettre d'autres. Et donc pour ça, il faut les replacer, effectivement, comme vous l'avez dit, dans le temps et dans l'espace.
C'est-à-dire que Ranson, on peut le rapprocher d'autres crimes et voir si ça correspond. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs un peu pour Ménage. Hein. La gendarmerie a travaillé là-dessus en disant il était bien là à ce moment-là, tout correspondait.
Alors ça, c'était plutôt des analyses comparatives, c'est-à-dire comparer deux faits pour voir s'ils pourraient être liés au même auteur. Là, on va le positionner dans le temps et dans l'espace et on va chercher tout ce qui est non résolu, qui croise cette route. Et ensuite, s'il y a des faits non résolus qui croisent sa route ou qui se sont à un moment où il est positionné quelque part en France, on va à ce moment-là comparer. Mais il faut d'abord le positionner.
Et on est d'accord, c'est pas Jacques Ranson qui va vous donner la clé, puisque Jacques Ranson, il a jamais avoué spontanément des meurtres, que ce soit à Perpignan ou bien près d'Amiens.
Non, ça c'est une de ses particularités, mais ils sont à peu près tous comme ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut quand même arriver avec un minimum d'éléments pour commencer à pouvoir discuter. Donc on peut pas, là on n'est pas dans les séries télé où il suffit d'aller voir le tueur en série à la prison, lui demander ce qu'il a fait d'autre, pour qu'ils disent, ils fassent une petite énigme et ils nous indiquent où chercher. Nous, il faut qu'on arrive avec déjà des éléments pour pouvoir lui reposer des questions et espérer, si jamais on pense qu'il en a fait un autre, lui faire dire.
Il faut que vous le montrez que vous aviez travaillé sur son cas. Hein, alors, et que vous parlez, non pas à égalité, mais enfin que vous lui emmenez des éléments et on va en discuter tranquillement.
C'est oui, ça c'est ça, il faut arriver avec des éléments, comme on dit dans le jargon, il faut arriver avec des billes.
Du biscuit.
Pour pouvoir commencer à discuter, juste lui poser la question de ce qu'il a fait d'autre. Le président de la cour d'assises le fait et il dit très très bien, en jurant, rien d'autre. Et pourtant, on sait un peu plus tard que si. Donc c'est cette particularité. Tout à l'heure, vous parliez du soulagement.
Oui, parce que j'ai lu ça, qu'il était soulagé après ses aveux, vrai ou faux ?
Je ne suis pas sûre qu'il soit soulagé. On l'est d'ailleurs, nous non plus, jamais vraiment complètement, parce qu'on ne sait pas encore ce qui nous attend dans ce genre de situation. Et c'est très paradoxal comme sentiment, parce qu'on voudrait être content. Quand on signe un gros contrat dans une entreprise, on est très content, enfin, péter le champagne.
Bien sûr.
Nous, quand on est lucide d'une affaire comme ça, et quand on obtient des aveux, on ne fait pas péter le champagne, on ne peut pas. Ouais. On est coincé dans ce paradoxe terrible de on est très content d'avoir fait notre travail et assez horrifié du résultat et finalement de ce qui s'est passé.
C'est une victoire professionnelle et la preuve que vous servez à quelque chose.
C'est la fierté d'appartenir à une équipe,
bien sûr,
la fierté groupe, d'être gendarme.
Un groupe, bien sûr, c'est une équipe qui travaille, et vous l'avez très bien dit, vous n'êtes pas seul à avoir interrogé Ranson, il y a toute une équipe qui a travaillé très longuement et même en amont, parlant des années. Donc ça, il faut bien saluer ce travail. Thibault Solano, directeur adjoint de la rédaction du magazine Marianne. Depuis le début de cette affaire, les avocats et la famille, eux, ils sont unanimes, ils disent Rançon, il a commis d'autres crimes. On a trouvé ménage, mais on va en trouver d'autres.
Oui, alors, faut rappeler plusieurs choses. D'abord, à Perpignan, Jacques Rançon a commis un crime ou une tentative de crime tous les 3 mois. Une frénésie criminelle. Dès lors, c'est étrange de penser qu'entre 86, le meurtre d'Isabelle Ménage, et 92, qui est sa première incarcération pour un viol commis dans le secteur d'Amiens, donc 6 ans, il n'aurait rien commis. Mmh. C'est étrange. Vous avez parlé du cas Sophie Borca, qui est, à mon avis, le cas le plus...
emblématique.
Oui, intriguant, on va dire. Il y avait ce bâton à côté du corps, il y avait également une plaie sous le sein, compatible avec une arme blanche.
C'est ça.
Donc, est-ce que c'était le début d'une mutilation? Évidemment, peut-être que c'est pas lui, mais tout de même, ça reste troublant.
On peut effectivement se poser la question. La justice est toujours en marche, le tueur ne semble pas prêt aux confidences.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Les enquêteurs du Paul Cold Case et les avocats vont continuer à explorer les méandres du cas Jacques Rançon, 64 ans. Les analystes en sciences du comportement, une nouvelle discipline, vont eux aussi continuer à expertiser le tueur en série en décortiquant encore et encore des scènes de crime et son profil. Il y a 20 ans, quand on prenait en compte une scène de crime aussi sordide qu'elle puisse être, on essayait de la résoudre, pas de la comprendre. Les choses ont changé, indique Marie-Laure Brunel-Dupin, la femme qui, avec ses collègues, a fait avouer Jacques Rançon.
J'ai jamais pensé ça de lui. Moi, j'ai une enfance aussi malheureuse que lui. Les pauvres petites filles, elles sont plus là. Elles sont parties dans des souffrances atroces et la famille reste. Là, pour eux, c'est terrible.
Les paroles de Denise Rançon, c'est la demi-sœur de Jacques Rançon, c'était sur France 3 Hauts-de-France en 2018. Marie-Laure Brunel-Dupin, on vous retrouve dans cette heure du crime. Lieutenant-colonel de gendarmerie, criminologue, analyste comportemental, vous nous avez raconté votre expérience face à Jacques Rançon et l'expérience de vos collègues. Tout ça a permis de le faire avouer, cet homme. Alors, vous êtes la chef de la division des affaires non élucidées, ça s'appelle Diane. C'est quoi Diane? C'est uniquement, vous traitez uniquement des cold cases?
Alors non, justement, c'est une petite subtilité du nom, c'est non élucidé de 2 heures à 30 ans. Donc un fait qui vient d'être découvert et déjà non élucidé, alors c'est même vrai. Qu'on vient de le découvrir. Non, on travaille sur un champ bien plus large, donc sur des affaires très actives, très récentes, sur des affaires très anciennes, actives, sur des affaires anciennes et inactives. Donc notre appui vient apporter des capacités très spécifiques, comme celle des sciences du comportement, ou les parcours criminels, ou la reprise de dossiers anciens, au profit de toutes les unités recherche de France. Soit c'est l'unité qui nous appuie, soit c'est nous, et on vient leur apporter des choses qui n'existent qu'à la division des affaires non élucidées, comme les sciences du comportement, qui est une technique finalement aujourd'hui moderne. Alors moi je dirais plus nouvelle, parce qu'elle a quand même c'est déjà vrai. 20 ans.
Je disais nouvelle, mais on la connaît très peu, donc c'est pour ça.
Oui, on aime bien travailler dans l'ombre de nos dossiers, on est bien comme ça. Donc pour moi c'est moderne de comprendre la scène de crime pour mieux la résoudre.
Alors oui, c'est ce que vous dites, parce que cette phrase elle est très importante. Avant, on essayait de la résoudre, cette scène de crime, et tout de suite et le plus rapidement. Aujourd'hui, on essaie de la comprendre, ça veut dire qu'on accumule des éléments qui vont servir pour de futures affaires. Selon vous, ces interrogatoires classiques qu'on voit, vous l'avez dit, dans des séries, dans des films, c'est fini ça? On ne peut plus aborder les personnes qui sont devant vous comme cela?
Je pense qu'on a compris que ce n'était pas toujours la meilleure façon de récupérer des explications et la vérité. Donc que la garde à vue ait lieu avec une unité d'appui comme celle des sciences du comportement ou de façon plus classique sans nous, on n'est plus dans cette volonté d'aller à l'affrontement et au match de boxe. Aujourd'hui, une garde à vue, quel que soit le sujet, et vu comme c'est compliqué, une garde à vue, c'est une partie d'échec.
Ouais.
Donc, on essaie de se mettre à la place de l'autre, on essaie de le mettre dans le meilleur disposition possible pour nous parler. On a des formations pour ça, donc on n'est pas sur l'interrogatoire de film. C'est bien plus subtil.
C'est bien plus subtil. Thibaut Solano, vous êtes directeur adjoint à la rédaction de Marianne, le magazine Marianne, et vous connaissez très très bien cette affaire Rançon, vous avez suivi ces procès. On revient de loin avec Rançon, hein, parce que c'est finalement grâce à ces nouvelles méthodes, cette nouvelle approche qu'on en sait plus sur lui et qu'on a réussi à le faire avouer.
Oui, mais ça fait partie de ces affaires qui étaient en sommeil pendant des années et que l'ADN en particulier a permis de faire rebondir. Tout à l'heure, on se demandait pourquoi Jacques Ranson se rétractait souvent. Il s'était rétracté pour Mokhtaria Shaïb également à Perpignan, comme il s'est rétracté exactement de la même façon pour Isabelle Ménage. Moi, en vous écoutant, j'avais quand même une théorie qui me venait à l'esprit. C'est est-ce que simplement Jacques Ranson a peur qu'un meurtre mène vers un autre meurtre.
C'est ça. C'est vous qui l'a posé cette question. On va terminer là-dessus, Marie-Laure Brunel-Dupin. Est-ce que, effectivement, cet homme, c'est une bonne question. Est-ce qu'il n'a pas peur que la pelote se déroule et que finalement on s'aperçoive qu'il est déjà horrible, Ranson. Ses actes sont inqualifiables, mais que ça sera encore pire.
Oui, il veut pas revivre ça. Donc le fait de dire qu'on lui a extorqué puis que finalement c'est pas lui, ça, surtout ne revenez pas parce que j'en ai pas d'autres. Et celui-là d'ailleurs n'était pas non plus à moi. Donc c'est peut-être sa façon de effectivement de repousser ça parce que c'est des moments d'exposition des gardes à vue qu'il aime pas. Alors c'est pas tant pour la situation parce que être là ou ailleurs pour lui c'est pareil. Mais si on pouvait éviter de lui faire revivre tout ça et s'il pouvait
pour son confort.
Pour
son confort personnel.
Donc ça peut être tout à fait une théorie plausible.
Juste quelques mots avant de terminer. Pourquoi elle vous a autant marqué cette histoire Ranson ?
Alors elle me marque toutes en fait, parce que c'est à chaque fois des aventures humaines, tant vis-à-vis des victimes, de leur famille, et des aventures humaines extraordinaires avec des gendarmes et des enquêteurs formidables. Elle me marque toutes, celle-là elle est particulière parce que 47e heure, c'est quand même un peu stressant.
L'aveu de la 47e
heure. L'aveu de la 47e heure, c'est pas la première fois que ça m'arrive, et j'espère que c'est pas lié à moi, non. Et je préviens les autres enquêteurs que je suis désolée. Mais c'est vrai que ça arrive souvent. Après, des stratégies, 48 heures pour parler à un tueur en série qui a commis des crimes il y a 20 ans, c'est extrêmement court. Quand on en a 96 pour une bande organisée, pour un trafic de stupéfiants.
C'est trop court.
C'est beaucoup trop court pour mettre en place ça.
Et effectivement, vous n'êtes pas la seule à le dire d'ailleurs. Il y a même des avocats qui disent que ça serait mieux si c'était un peu plus long. Merci beaucoup Marie-Laure Brunel-Dupin. Je rappelle le titre de votre livre que vous avez écrit avec Valérie Perronnet, Serrer les dents, qui est publié aux éditions Black Lab. Et c'est un roman qui s'inspire de votre expérience professionnelle. Merci Thibault Solano également d'avoir été vous aussi invité de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, rédactrice en chef Justine Vignon, préparation Marie Bossard, Priscille de Gueffier, réalisation Nicolas Godet.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.